Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Mathieu. Bonsoir à vous, Mathieu.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette libre antenne. Je vous écoute.
Merci. Mais je vous appelais pour raconter une petite partie de ma vie. Donc, j'ai 28 ans. J'ai repris donc, mes études à 25 ans. Avant, j'étais ambulancier au SMUR. Et donc bon, j'ai vu un certain nombre de patients, souvent des patients âgés. Et donc, il m'est arrivé très souvent de parler avec eux, d'avoir... Et souvent, j'avais un petit retour sur leur expérience de vie. Donc, à chaque fois, j'avais quelques anecdotes, etc., etc. Et donc, ce qui en ressortait à chaque fois, c'était effectivement, ces gens-là n'avaient pas de regrets, mais s'ils avaient des choses à refaire, il y a des choses qui referaient à chaque fois autrement, il y a des choses qu'ils regrettaient de ne pas avoir fait quand même, même si au bout du compte, ils n'avaient pas de regrets. Et donc, moi, entre mes 18 et 23 ans, j'étais ambulancier, mais en même temps, je faisais ce métier un petit peu par défaut. Et je m'en contentais. Je suis resté en couple pendant cette période-là. Donc, j'étais un petit peu dans une période où j'étais un petit peu dépendant de manière affective, ce qui fait que le travail n'était pas une priorité, ou moi-même, je n'étais pas forcément une priorité.
Pardon que je comprenne bien le cheminement. Quand vous dites que je suis arrivée à ce métier un peu par défaut, par dépit, comment est-ce qu'on arrive à faire ce métier comme ça? Il y a une formation quand même à l'origine? Comment ça se prépare?
Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà pour. Alors moi, j'étais pompier depuis 16 ans.
D'accord.
J'étais pompier volontaire. Donc, forcément, je suis arrivé là-dedans. Okay. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'état d'ambulancier. C'est l'équivalent d'être soignant en termes de formation. Enfin, en termes de ce qu'on voit, en tout cas en cours. Ensuite, il y a une formation supplémentaire pour travailler au SMUR. Donc, au SMUR, c'est le SAMU. Hein. C'est l'équipe médicale.
D'accord. Mais vous étiez déjà dans cet état d'esprit des pompiers, dans cet univers-là?
Oui, voilà. D'accord. Oui, j'étais déjà quand même dans cet univers-là. Mais, juste après le bac, effectivement, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais un peu perdu. Puis, j'étais déjà un petit peu en couple. Donc, je me suis engagé dans le travail directement, sans forcément penser à moi, sans forcément penser aux études. Et donc voilà.
Vous étiez sur des rails, mais pas forcément ceux que vous vouliez?
Exactement, c'était ça. J'étais sur des rails et pas forcément sur ce que je voulais. Et c'est en échangeant forcément à chaque fois qu'il est patient où je me disais mais en fait je suis en train de faire ma vie un petit peu de manière automatique parce que je suis en couple. Mais en fait être en couple c'est pas du tout penser à soi. Enfin en tout cas si on peut, mais on peut être en couple et en même temps penser à soi. Mais là pour le coup c'était pas le cas. J'étais un petit peu dépendant effectivement et donc du coup j'ai plaqué un petit peu tout ça et je me suis recentré sur moi-même, sur ce que je voulais. Sur ce que je voulais faire réellement dans ma vie. Et puis, dans mon métier d'ambulancier, malheureusement, je m'ennuyais parce que je voulais aller plus loin, parce que, justement, les diagnostics, c'était pas à nous de les faire, parce qu'on faisait des choses qui étaient banales, et puis, je voulais aller plus loin, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs en tant qu'ambulancier? Jusqu'où on va?
Donc, déjà, c'est en fonction de l'équipe médicale avec laquelle on travaille. Donc, les missions sont déjà d'acheminer l'équipe médicale en toute sécurité entre l'hôpital et le lieu d'intervention, et ensuite d'acheminer en toute sécurité et aussi en fonction de l'état pathologique du patient, de son lieu de domicile ou du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital sur lequel il doit être acheminé.
D'accord.
Sur place, on peut aider, il faut forcément aider l'infirmière à préparer le matériel. Par exemple, sur un arrêt cardiaque, l'infirmière prépare les drogues que le médecin lui demande de préparer, le médecin doit intuber. Donc lui, l'ambulancier, il doit préparer le scope, il doit préparer le défibrillateur, il doit même mettre d'ailleurs tous les patchs pour... Il y a un certain nombre de patchs à mettre sur la poitrine du patient. Il y a quand même tout un tas de choses à faire quand même. Et on ne s'ennuie pas en général. Chacun est occupé. Hein, on ne reste pas. Mais moi, c'est intellectuellement, ça ne m'allait pas. C'était comme l'infirmier. J'exécute et puis on ne demandait pas de réfléchir. Sauf qu'à un moment donné, au bout de 4-5 ans, on commence un petit peu à réfléchir. Il y a des étapes pathologiques sur lesquelles on s'intéresse un peu plus et on veut aller plus loin. Et puis voilà, les autres médecins me disaient « Mais reprends tes études, fais médecin. » Pour moi, ça me paraissait complètement surréaliste de faire médecin. Je mets de la vie, je ne vais pas faire médecin. Enfin, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Enfin, et donc, quand j'ai 18 ans, effectivement, c'est ce que je voulais faire hein, à la base, un médecin.
Ah oui,
et avant, on n'avait pas toute la documentation sur Internet comme maintenant, dans les années 2009-2010. On allait au centre de documentation et d'information. Il y avait la fiche métier sur les catalogues de l'ONICEP. Et puis, ce qu'ils nous racontaient sur les études de médecine, c'était quand même très différent de ce que du coup j'ai pu connaître. Parce que du coup, j'ai arrêté ambulancier. Et puis ensuite, je me suis recentré sur moi-même, je suis séparé aussi, j'ai tout plaqué pour le coup, et je me suis recentré sur moi-même, et du coup, j'ai repris les études.
Alors, comment ça fonctionne pour raccrocher les wagons? Il y a un concours d'entrée? Comment ça marche?
Alors, moi, quand j'ai recommencé du coup les études, je suis tombé en plein dans les annonces d'Emmanuel Macron sur la réforme des études de médecine. Mmh. Et donc, je suis passé donc là, je suis en troisième année de licence, sciences pour la santé. Et donc, je passe par cette licence pour faire la passerelle médecine. Donc,
d'accord.
C'est ce qu'on appelait avant l'alter passes. Et maintenant, c'est ce qui va être généralisé, donc ça portera plus ce nom-là. Donc, je fais partie de la dernière génération à pouvoir bénéficier de cette passerelle. En fait. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, je suis presque au but. Donc, là, ça y est, je suis en troisième année, donc sciences pour la santé. Mes cours me plaisent énormément parce qu'on commence déjà à faire des électrocardiogrammes. On commence déjà à savoir un petit peu les décrypter, même si c'est minime, mais on commence à faire des choses qui sont très ressemblantes à ce qu'ils font en médecine. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et en même temps, mais j'étais un petit peu dans un état d'esprit en ce moment où hier vous avez dit il y a les feuilles qui tombent des arbres en ce moment. Et souvent on a du mal à décrocher, on a du mal à décrocher de nos objectifs, on a du mal à décrocher de
des caps. C'était pas à décrocher, c'était à lâcher.
À lâcher prise, exactement.
Avoir suffisamment confiance à la vie pour lâcher et laisser venir ce qui vient après.
Exactement. Et ben moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Parce que du coup, je me suis tellement fixé cet objectif de médecin que si je n'y arrive pas, je me dis, je ne sais absolument pas ce que je vais faire d'autre. Enfin, j'ai cette impression où si ça sera un échec, au moins j'aurais tenté. Le jour où je serai sur mon lit de mort, je pourrais dire que j'aurais tout fait pour y arriver. Et que, voilà. Mais du coup, si je n'y arrive pas, j'ai l'impression de me dire, mais il va falloir que je fasse un deuil, comme si j'avais perdu quelque chose. Donc, je profiterai de la vie, soit, mais avec une frustration. Alors, je discutais avec une professeure il n'y a pas longtemps, justement, son mari était médecin et elle, du coup, a été chercheuse. Bon, la pauvre, elle a dû le suivre dans la ville où je suis. Et bon, elle l'a suivi et du coup, elle se retrouvait prof, elle a fait de l'administratif, elle a fait de l'enseignement, mais à la base, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Et ça m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, mais j'ai absolument pas envie de me retrouver comme cette prof qui fait quelque chose qui lui plaît pas. Elle attend la retraite, elle vivote à côté, mais finalement, dans la vie, elle a pas fait ce qu'elle aurait voulu faire, quoi, finalement. Et ça, du coup, ça me fait super peur. Donc, en ce moment, je suis entre le travail à fond, mais pas un moment. Et dans la journée, je suis souvent bloqué dans un espèce d'immobilisme. Je me mets tellement la pression, il y a tellement comme une épée d'Amoclès sur ma tête que j'ai des blocages. Je travaille, mais je travaille pas suffisamment comme je voudrais. Bon, c'est surtout ça, en fait. Je travaille pas suffisamment comme je voudrais. Il y a des moments où je fais pas ce que je devrais faire, je n'y consacre pas assez de temps, et donc du coup en ce moment ça me stresse pas mal du tout, et c'est l'après qui me fait peur, en fait. Je suis sur l'après, je suis pas sur le moment. Moi, dans ma tête, je suis déjà dans l'après, dans l'optique de l'échec.
Et là, quand je vous écoute, je pense à cette citation que j'aime beaucoup: qu'ils sont lourds les fardeaux que nous ne porterons jamais.
Oui, bah oui. Mais oui, mais moi, c'est ma nature, hein. Anticiper. Toujours tout anticiper.
Ah non, ça ne s'appelle pas anticiper, ça. Parce que vous pourriez anticiper dans le bon sens.
Oui, oui, je pourrais anticiper dans le bon sens, c'est vrai.
Ce que vous faites, c'est que vous laissez parler le petit saboteur interne. Vous savez, le petit mec interne qui remonte ses manches en disant: tu vas voir, tiens, tu n'y arriveras jamais, t'es nul. T'as pas de chance, c'est trop bien pour toi. Tout cette petite voix intérieure, là, c'est ça, c'est cette voix-là que vous laissez parler. C'est pas anticiper, ça, parce qu'anticiper, ça pourrait être parfaitement de l'anticipation positive et ce serait très bien.
Oui, il peut y avoir aussi une part de réalité, enfin, où on essaye de prévoir le risque. Et
Oui,
le risque est quand même présent.
vous pourriez demain matin vous faire écraser par un camion. Hein.
Oui. Non, mais oui, non, mais après, effectivement, et ensuite, il y a des choses de la vie à laquelle on peut se raccrocher.
Mais
Pas
attendez, et quand j'écoute ce que vous me dites là, Mathieu, vous avez eu le cran d'arrêter de vous, déjà si jeune, d'avoir la réflexion, la maturité nécessaire pour vous dire, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je ne suis pas sur les bons rails. J'ai pas envie de me retrouver un jour à 50, 60, 70 ans et de me retourner en me disant, zut, j'aurais dû. Vous avez cette maturité-là, cette intelligence-là, vous arrêtez tout, vous reprenez vos études, vous mettez tout en place, vous êtes sur le bon chemin maintenant.
Ah oui, et du coup, bah, c'est des blocages. C'est des blocages et c'est la peur de l'éventualité de l'échec fait que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si j'échoue? Qu'est-ce que je vais faire? Et enfin, ma vie sans me fait peur, quoi, en fait. Je me dis, mais
Alors,
je sais pas ce que je vais faire.
il y a des petites choses à chercher là-dedans. Est-ce que vous avez un problème de légitimité? Est-ce que vous vous sentez légitime dans ce que vous êtes en train d'apprendre?
Ah oui, totalement. Non mais je me
Bon.
sens totalement à ma place, hein.
Très
Non mais
bien.
complètement.
Ça, c'est une
Je
bonne
suis à
chose.
fond. J'adore ça. Je participe très souvent. Je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur parce que pas bien de dire qu'on est le meilleur. Mais enfin, je fais partie de ceux qui expliquent aux autres normalement. Enfin, généralement.
D'accord. Fabrice me fait un petit signe en régie. On marque une courte pause, si vous le permettez. Et je vous pose quelques questions ensuite et on va poursuivre notre conversation. Mathieu, à tout de suite.
D'accord.
Mathieu, vous êtes là.
Je suis là.
Alors, la légitimité, c'est OK. Deuxième chose, est-ce que vous êtes soutenu par votre famille dans cette reconversion? C'est pas une reconversion, mais presque, en tout cas dans ce nouveau chemin.
Alors, par la famille, non. Du coup, j'ai un compagnon avec qui ça se passe bien, qui me soutient totalement. Donc là-dessus, non, là-dessus, j'ai pas véritablement de problèmes. Après, c'est vrai que je suis du coup très seul, très isolé. Enfin, je suis nature optimiste ou joyeux, donc je parle avec les gens en général. On dirait que je pourrais m'intégrer avec des grenouilles, souvent on dit de moi. Mais autrement, je suis très seul. Bon, ouais, je suis très seul autrement. Parce que je révise, parce que je reste chez moi, je m'isole, parce que j'ai pas nécessairement envie de sortir ou tout simplement, quoi. Mais
Pourquoi
oui, si.
vous me dites que vous n'êtes pas soutenu par votre famille?
Oh, bah, ça a toujours été compliqué, les relations avec la famille. Ils comprennent, j'ai des parents qui comprennent pas, enfin, qui n'ont pas forcément un niveau d'instruction très élevé. Ils n'ont pas nécessairement tout compris encore de ce que je faisais. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué de leur en parler. Donc, enfin, je leur parle de ce que je fais, mais pour eux, ça, ils comprennent pas tout, quoi. Voilà. Issu d'une famille qui n'a jamais été proche de moi, hein. Donc ça pour le coup, comme je dis souvent, je dois beaucoup à l'école, au collège, au lycée, enfin.
Moi, j'ai l'impression que vous devez beaucoup à vous-même, surtout, hein.
Bah oui, bah ça c'est peut-être de la chance. C'est peut-être de la chance tout court, hein. Parce que j'aurais pu terminer autrement, mais c'est non, ça je pense que c'est de la chance, le facteur chance.
Vous pourriez être un peu fier de vous aussi?
Comment?
Vous pourriez être un peu fier de vous aussi?
Ah oui, sur ça j'ai pas de
Ah,
non, sur ça
bon.
j'ai pas de problème. Si je fais quand même un petit feedback et je peux me dire bon ça va quand même, j'en suis plutôt bien sorti. Mais
Bon.
il n'empêche que en ce moment ça que bah en fait en ce moment je suis hyper stressé et ce qui me dérange c'est que du coup j'ai cet état un peu de paralysie où il y a des journées où du coup j'ai l'impression d'avoir un gros poids sur les épaules, d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, je suis stressé. Donc, j'ai été voir le médecin, là, par exemple, le lundi. Il était 10 h, j'étais à 132 pouls. J'ai perdu la moitié de ma moustache. Voilà. J'ai des gros trous partout dans la barbe, tellement je stresse. Et donc, en ce moment, il y a les masques. on voit pas les gros trous à travers ma belle. J'ai une belle barbe, mais là, j'ai des gros trous partout dedans, tellement je suis stressé en ce moment. Et ouais, c'est en train de me mettre dans un état où je devrais travailler, où je devrais être à fond. Et au final, je suis en mode ben, je suis pas à fond, quoi. Justement, j'ai une espèce de blocage. Je sais pas. Voilà.
Alors, plusieurs choses. On va travailler un petit peu en visualisation avec vous, ça peut être intéressant. La première chose, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, vous savez mieux que personne qu'on va toujours là où on regarde. Et vous savez que sur la route, s'il y a un accident, le plus dangereux pour ceux qui viennent aider, c'est que le conducteur qui arrive derrière, s'il regarde l'accident, il y va direct. Ça vous parle, ça?
Oui.
Vous savez, quand on dit toujours de faire extrêmement attention, quand on focalise son regard sur quelque chose, on a tendance à prendre cette direction. Donc, s'inquiéter, c'est passer beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'énergie à se focaliser sur quelque chose qu'on ne veut pas.
Donc, dès que... c'est un peu ça.
Ah, c'est même complètement ça. Et dès que vous sentez que vous vous angoissez et qu'il y a c'est ce que j'appelle vraiment le petit saboteur interne là, qui revient, vous pouvez réapprendre, ou apprendre en tout cas, à diriger vos pensées. À vous dire, attention, ma pensée, là, elle va vers là où je ne veux pas aller. Et donc, si je ne veux pas y aller, c'est à moi de choisir où je veux aller. Personne ne viendra vous taper sur l'épaule en vous disant, attention, tu n'es pas dans la bonne direction là. C'est à vous de le faire, ça. Et ça, ça se fait comment? Ça se fait avec de la méditation, ça se fait avec de l'auto-hypnose. Apprendre, réapprendre à vous approprier vos pensées et à les diriger vers là où vous voulez aller, parce qu'on va toujours vers ce à quoi on pense.
Oui.
Donc ça.
C'est un cheminement.
Ouais.
Qui me paraît. Oui, non, mais bien entendu, il faut des efforts hein, pour ça, faut mettre en place des.
C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement, mais croyez-moi, quand on l'a intégré, ça change la vie.
Hein. Mais il faut le faire. La méditation, c'est vrai que j'ai commencé à en faire, mais je ne me tiens pas. Je ne sais pas.
Moi, je vous conseillerais plutôt d'apprendre à faire de l'auto-hypnose, soit avec des bouquins, soit avec une formation. Dans quelle région êtes-vous?
Je suis en Normandie. Dans ma résidence, j'ai une psychothérapeute. j'ai tout juste à côté de. À moins de 100 mètres de chez moi.
C'est pas elle qui va vous apprendre l'auto-hypnose. Hein.
Je ne sais pas du tout qui. Ah bah, peut-être des gens en hypnose, oui, en hypnothérapie, oui.
Alors, soit un hypnothérapeute qui vous enseigne ça dans son cabinet, soit des écoles qui proposent des stages sur des week-ends, comme ça vous pouvez apprendre à gérer justement vos pensées, vos émotions. Je vous conseille aussi un très chouette livre de Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous connaissez Deepak Chopra, c'est un Indien.
Ça ne me dit rien.
Deepak, D2EPAK, et Chopra, CHOPRA, qui s'appelle « Les 7 lois spirituelles du succès ».
D'accord. Le titre, quelque chose.
Le titre pour moi n'est pas génial parce que c'est pas un truc mystique. Si quand spirituel, ça me gêne un peu dans le titre. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment bourré de conseils pratiques. Et ça vous ferait les sept lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Ça vous ferait du bien aussi de lire ça.
Ça va, je suis lecteur.
Ben, j'imagine.
Sur ça, il n'y a pas de problème.
Et vraiment, l'auto-hypnose est un outil qui vous permettra aussi de gérer ces angoisses quand elles arrivent. De prendre Vous avez une image tout à l'heure que vous m'avez parlé de ça. Non, vous m'avez dit que ça fait comment quand ça commence à dérailler chez vous?
C'est pas que je stresse, c'est que je procrastine. Je procrastine, je fais autre chose. Quand c'est comme ça, du coup, je vais me focaliser sur un jeu. Je vais pas vouloir travailler. Je sais qu'il faut que j'y aille, mais.
Vous n'avez pas parlé d'angoisse tout à l'heure? J'avais l'impression que vous
aviez Non, je suis stressée, ça c'est sûr, je suis stressée.
Mais c'est la
stress que je ressens physiquement, en fait. C'est dire, dans ma nature, je ne suis pas de nature stressée. Là, quand on me voit, même en étant stressée, je suis quelqu'un de souriant, plutôt d'optimiste. Mais le stress, c'est plutôt, chez moi, c'est quelque chose qui est physique. Quoi. Ça va être le mal au ventre, ça va être la perte de la barbe, ça va être les nausées, le vomissement. Alors ça, c'est typique, hein. Nausées, vomissements, mal au ventre, voilà. Ça va vraiment se traduire physiquement. Je sais que je vais être stressé parce que j'ai des symptômes physiquement, mais en moi, je ne ressens pas nécessairement de l'angoisse ou du stress ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce côté plutôt je procrastine ou plutôt je me change les pensées. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que je me change les pensées en jouant quelque chose, en lisant quelque chose aussi, mais qui n'a absolument pas à voir avec mes cours, ou alors si, ça a à voir avec mes cours, mais ce n'est pas la priorité. Mmh. Alors ça aussi, du coup, il y a ce côté bazar dans ma tête.
C'est une fuite.
Ouais, ça y ressemble. Hein. Mmh. Mais oui, ça y ressemble. Hein.
Alors pour gérer ce stress, il y a un très bel outil aussi qui s'appelle l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ça ne me parle pas.
Emotional Freedom Technique. Allez vous renseigner là-dessus, soit pour le faire avec un thérapeute, soit pour apprendre à le faire, parce que même dans votre pratique, ça vous servira plus tard.
D'accord.
C'est extrêmement efficace. EFT.
Ça, je retiens. Et
c'est un système où on tapote sur les méridiens pour se débarrasser de stress, de douleur, de tas de choses qui nous empoisonne la vie, et c'est vraiment assez efficace et assez rapide surtout. C'est ça l'intérêt de l'EFT. Vous pourriez apprendre ça pour vous-même et pour les autres. C'est vraiment très intéressant. Et puis, travailler sur la visualisation. Quand vous avez des moments plus compliqués où vous vous dites, mais mon Dieu, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je ferai de ma vie? C'est la fin du monde, je suis pas capable de faire autre chose. Poussez ça comme si vous passiez un grand coup de balai dans vos pensées et focalisez-vous sur la réussite de votre examen et de votre carrière à venir. Projetez-vous déjà mentalement. Je suis médecin. Est-ce qu'il y a une spécialité, par exemple, qui vous attire plus qu'une autre?
Ah oui, bah c'est la suite de ce que je faisais. J'en étais médecin urgentiste. Ce sera la même chose. Il y en a une, tu es courageux pour faire urgentiste parce que les conditions aux urgences ou aux caisses c'est pas génial. Mais voilà, moi personnellement, c'est ce qui me plaît le plus. Là où je suis plus efficace, et plus c'est plus c'est le bordel, plus ce sera la pagaille. Et plus je vais avoir l'esprit rapide, fluide et assez clairvoyant.
C'est très intéressant ce que vous dites là. Ça veut dire que quand il y a du stress, vous savez aussi le transformer en stress positif.
Oui, je sais faire.
Il n'y a pas de stress positif ou négatif. Il y a un stress qui nous pousse en avant ou qui nous tire en arrière. Celui qui vous gêne, il vous tire en arrière. Donc, transformez-le pour qu'il vous pousse en avant. Vous savez le faire.
Oui, bah avec ce que vous m'avez cité, effectivement, peut-être que je me renseigne sur quelques pratiques pour justement essayer de transformer ça, effectivement, et éviter d'être bloqué comme je le fais en ce moment, et m'éparpiller partout comme je le fais, et vraiment me focaliser sur les points importants de mes cours, et éviter de m'éparpiller, d'essayer de prendre la fuite comme je le fais de manière un peu inconsciente. Combat dans la tête, de se tenir, de se dire, bon, maintenant, hop, au travail, c'est tel truc à voir, c'est pas autre chose, et enfin,
Alors, je préférais que ce soit un apprentissage plutôt qu'un combat, parce que dans un combat, il y a toujours quelqu'un qui perd.
Oui, je sais pas.
Mais pour en revenir au stress, moi, quand j'ai une petite poussée de stress, quand j'ai un rendez-vous important, un projet, quelque chose, je me visualise toujours ça en me disant, voilà, il y a un stress qui peut être positif, qui me pousserait en avant, et celui que je ressens là, il n'est pas bon, il est négatif, il me tire en arrière. Et donc, je transforme dans ma tête ces bras qui me tirent en arrière vers des bras qui me poussent en avant, simplement.
Oui, je pense que c'est... Oui, il faut s'entraîner, il faut réussir à... Il faut que j'essaye, là. Bah, rapidement, avant que ça commence à me jouer des tours, parce que mine de rien, je commence à avoir des contrôles très rapidement, et j'aimerais ne pas m'éparpiller encore plus que ce que je fais et que ça me porte préjudice.
Alors attention, écoutez bien ce que vous venez de dire. J'aimerais ne pas m'éparpiller. Vous regardez vers là où vous ne voulez pas aller.
Ouais.
Je choisis d'être concentré et de réussir.
C'est ma personnalité.
Commencez par bannir toutes les formules négatives. Et croyez-moi, quand vous serez urgentiste, par pitié, apprenez à parler de manière positive aux gens. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'écoute quand j'ai expliqué ça plein de fois, mais je le redirai autant de fois qu'il faudra. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une Ferrari rouge, la première image mentale que vous vous fabriquez, c'est la Ferrari rouge. Si vous dites à quelqu'un qui vient d'avoir un accident, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas en danger, ça fera pas mal. Il entend peur, danger et mal. Notre cerveau ne peut pas traiter la négation. Il va immédiatement construire l'image mentale du mot qu'il entend.
Ah oui, c'était... Sur ça, ça allait. J'aurais pas de travail à faire. En général, mes mots, c'était « ça va aller, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là ». Et je vais expliquer ce qui allait se passer.
Mathieu, ça va aller. Non, je suis désolée, ça va aller, vous inquiétez pas. Il y a inquiété. Ça va aller quand? Non, c'est ça va, c'est maintenant.
Oui, c'est vrai. Comme quoi, il y a quand même ce côté un peu négatif.
Parce qu'il faut apprendre ça.
Oui.
Et quand vous me dites je ne veux pas m'éparpiller, c'est la même chose. C'est une formule négative que votre esprit va convertir en image d'éparpillement et vous allez y aller direct.
Oui, c'est vrai.
Ça s'appelle de la PNL, si ça vous intéresse, c'est de la programmation neurolinguistique et ça aussi c'est passionnant et c'est extrêmement efficace.
Ben oui, effectivement, parce que si on peut inconsciemment être dicté par notre façon de parler ou notre façon de penser, et si on est inconsciemment aiguillé sur un état d'esprit avec une façon de penser, effectivement,
Ben, si
c'est
vous
plutôt
voulez,
bien de s'y entraîner, oui.
je vous ai conseillé le livre de Deepak Chopra sur le succès. Il y en a un autre de lui qui s'appelle Les fabuleux pouvoirs de notre cerveau. Là, vous allez vous régaler aussi avec ça.
Ouais, mais cela me parle, effectivement, celui-là me parle déjà. Il faut que je regarde tout ça en effet là, il faut que j'essaie essayer de me reconcentrer,
Alors, je vais vous
que je vais
embêter, je vais
faire
vous
quelques
embêter encore,
recherches.
hein, mais quand on essaie, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc, vous n'allez pas essayer, vous allez le faire.
Mais quand je dis essayer, je le fais en général.
Bon.
Ça, sur ça, ça va.
Bon, super.
Eh bien, c'était tout pour moi. C'est léger, hein, c'est rien.
Oui, mais ça permet de faire des petits recadrages et de donner des petits conseils aussi à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est toujours intéressant.
Bon, eh
Prenez
bien, merci en tout
soin de
cas de
vous
m'avoir écouté.
et des autres, Mathieu.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup et bon courage, bonne nuit à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.